Voilà.
Bon.
Ah, ça y est. Bon, mais vas-y, allez, on t'écoute.
Ouais, je suis désolée. Alors, donc les, oui, mon titre, les épars des assortis et leur inégalité. Alors, les épars des assortis, restent-ils des assortis dans une école de psychanalyse alors que le discours analytique fait lien entre eux? N'y aurait-il pas quelques assortiments possibles et néanmoins symptomatiques autour de quelques-uns, malgré leur disparité foncière? Alors, je me suis tout d'abord interrogée sur cette expression, les épars des assortis, puisque comme Elisabeth, je trouve qu'on en parle beaucoup actuellement. Et cette expression est utilisée pour la première fois en 1976 dans la préface à l'édition anglaise du séminaire 11, qui désigne sous la plume de Lacan les analysants, c'est-à-dire au mieux le produit d'une analyse, et il prend soin, par l'usage de cette expression, d'insister sur la singularité de chaque analysant. Alors, commençons par une petite recherche du côté étymologique. Épars ou espars représentent depuis le XIIe siècle le participe passé adjectivé du verbe esparser, qui signifie dans l'ancien français séparer, disperser, répandre, qui vient du latin sparvere, selon le dictionnaire historique de la langue française. À l'époque classique, ce terme désignait une personne dispersée ou ayant un esprit dispers, qui se disperse, qui va au hasard. Mais il y aurait également l'idée en latin populaire, à partir du verbe disparpaillare, de quelque chose inégalement réparti, comme le coronavirus par exemple. Donc nous croisons ici l'inégalité, thème choisi pour ce séminaire, alors qu'en psychanalyse, elle est de structure. En effet, l'inconscient est toujours singulier du fait de la prise du langage du parler, ce dont la psychanalyse témoigne, tout particulièrement dans la procédure de la passe que Lacan a inventée pour son école en 1967. En poursuivant avec le second terme de l'expression épars des assortis, le préfixe des comme dis en latin implique une action négative, contraire. Des assortis signifie donc le retrait d'au moins un élément d'un ensemble jusque-là assorti, ce qui détruit l'ensemble, le désassorti, lui faisant perdre toute valeur marchande. Par exemple, on a des assortis mi-porcelaine, mi-diamant. Du point de vue étymologique et historique, désassortir signifiait détruire un assortiment. Bien sûr, Lacan n'a pas choisi au hasard ces deux termes, comme on peut s'en douter, même s'ils peuvent apparaître redondants dans un premier temps. Par son choix avisé, il introduit d'une part l'idée d'une répartition inégale, voire hasardeuse, et d'autre part, l'idée qu'en aucun cas cette répartition ne pourrait constituer un ensemble du fait de cette notion interne de destruction. Dans son séminaire 24, ainsi que ses deux lignes de vue, c'est l'amour, leçon du 10 mai 1977, il ne parle plus des départs des assortis, mais des unarités séparées qui supportent la haine parente de l'amour. Il n'y a pas de tout sans l'occasion, précise-t-il. Rappel de la préface, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun trait commun entre eux, sauf celui du trait unaire qu'il reprend de Freud. Ces unarités de jouissance l'amènent à rappeler la formule « il y a d'un et rien d'autre », donc pas de sentiment aimable en l'occasion, entre ces uns, assurant leur différence absolue, dans une solitude encore plus affirmée. Alors on peut dire, comme le soulignait Colette Tolaire en février dernier dans le cadre du séminaire Actualité de la névrose, que la psychanalyse met en relief le vice réel qui est à la racine des relations sociales, à savoir que tout se fabrique par le lien des signifiants sans parvenir à faire le lien des corps de jouissance. Si l'amour est exclusif, comme Brassens le chantait avec humour dans Banc Public, Les amoureux qui grignotent sur les bancs publics en se foutant à mal du regard vif des passants honnêtes, tout le monde s'en souvient. La haine, elle, vise la destruction de l'être, ce qui fonde son hilarité. Par définition, la haine est antisociale et peut même faire groupe, soit réassortir les désassortis quand elle arrange contre la jouissance des uns ou des unes, comme le montre Freud dans son analyse de la foule. C'est la définition du racisme ou du sexisme ordinaire qui apparaît également sous les oripeaux de la jouissance de transfert au sein même des groupes analytiques, provoquant leur défragmentation. En effet, si le transfert pour la psychanalyse vise un nouvel amour que constitue le savoir acquis dans l'analyse, soit à savoir jouir, c'est un terme que j'emprunte à Colette Solaire dans son séminaire du 8 avril dernier, la jouissance de transfert peut conduire à bâillonner la parole de l'un et à le priver de la jouissance de ce savoir pour la psychanalyse. La confrontation à ce réel antisocial est à l'origine de bien des demandes d'analyse où le sujet attend du transfert une délivrance, voire même une protection de ce réel ravageur en dépit de ses symptômes. Bien qu'il puisse revendiquer vouloir savoir ce qui lui arrive, l'analysant persiste et signe dans sa position névrotique du n'en rien vouloir savoir de ce réel, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus de se plaindre de son assujettissement à l'autre. Soit le temps qu'il faut à chaque par-lettre pour dégager ces F1 de signifiant unaire et mettre en balance cette embrouille entre la vérité menteuse et ce hors-sens du réel, qui selon Lacan, toujours dans cette préface, vient signer la satisfaction de fin d'analyse. Mais de quoi pourrait-il se satisfaire puisque ce réel revient toujours à la même place? Elle ne convient qu'à l'usage d'un particulier, nous précise-t-il, dans la mesure où, s'appuyant sur le transfert à l'analyse, il a découvert son matérialisme, soit la façon dont il a été imprégné par le langage et qui constitue son inconscient, malgré lui et au-delà de son attente. Faisant valoir cette satisfaction de fin comme désir pour la psychanalyse, Lacan, dans ce dernier texte concernant la tasse, ne cherche-t-il pas à s'assurer que son école sera en mesure de faire obstacle à ce réel antisocial qui induit dans cette expression les efforts des assortis? Serait-ce une ultime mise en garde contre les réassortiments des uns symptomatiques qui surgissent ça et là, prenant des allures de discours du maître et aveuglant par le transfert sous-jacent les épars des assortis les plus avertis? Freud avait déjà rêvé d'une organisation internationale qui garantirait la pérennité de la psychanalyse. Et nous connaissons son destin qui aboutit à une école de didacticiens avec laquelle Lacan rompt, nous laissant sa description des suffisances et des petits souliers dans le texte « La situation de la psychanalyse en 56 ». Je vous rappelle, les suffisances règlent l'entrée des petits souliers dans leur dehors et les béatitudes leur désignent ceux qui feront les biens nécessaires, etc. Prenons le contrepoint de cette organisation où le discours du maître est aux commandes, Lacan crée son école en s'appuyant sur le discours hystérique où le savoir comme cause du désir est central. La procédure de la passe qu'il introduit en 1967 avec son texte « La proposition sur la psychanalyse de l'école » et qu'il affine jusqu'en 1976 dans cette préface à l'édition anglaise du séminaire 11, pose radicalement les fondements de la formation des analystes et par conséquent modifie la visée des cures. Notons que cette passe, il ne l'impose pas à tous en l'occasion, mais il la met à la disposition, c'est-à-dire qu'il offre à part égale ce dispositif aux analysants de son école. Ce faisant, l'APAS est un dispositif optionnel qui s'adresse aux analysants et pour ceux qui s'y risquent, devenant à leur façon, on peut en déduire qu'ils ont déjà acquis ce savoir sur leur qualité d'épargne des assortis, que la nomination d'AE pourrait entériner à l'issue de la procédure. Ainsi, l'APAS ne fait que dupliquer l'état d'épargne des assortis, puisqu'elle porte à son extrême l'inégalité foncière de chaque analysant face à son réel. La psychanalyse est le seul champ où cette inégalité est de mise, au-delà des idéaux de parité, puisque précisément, elle ne cesse de théoriser l'expérience singulière des passants et d'en élaborer la dimension épistémique, ou de l'acte de dire, un nouveau savoir émerge à partir des limites de ce réel inconscient. Ainsi, le savoir analytique est un savoir sur la vie, tel un vice en guise de clin d'œil sur la destinée d'un parlant qui peut désormais ouvrir la clé des champs sociaux sans y perdre sa langue ni son esprit. Voilà. Merci.
Il n'y a pas Rilke.
Ah oui.
Ça manque.
Ah oui. Manque, d'accord. Alors, je voulais gagner un peu de temps, on en avait perdu tout à l'heure.
Non. C'est important la citation de Rilke.
Eh oui. Je termine donc par une citation de Rilke. Pour distinguer les hommes, il a fallu les isoler. Mais après une longue expérience, il est juste de remettre en rapport les contemplations isolées et d'accompagner d'un retard parvenu à maturité, d'un regard parvenu à maturité, leurs gestes les plus amples. Voilà.
Voilà.
Merci beaucoup d'avoir écouté.
Merci.